Ta WhatsApp ou pas? Si t'as WhatsApp, ça là, je te mettais dans le groupe. Parce qu'on met tous les cours et on les met dedans, tu vois. Après le dar, ça là, tu me passeras ton numéro. C'est bon. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأحبتي في الله عز وجل ما زال الحديث موصولا في قراءة ما يتيسر لنا من شرح كتاب الأدب المفرد لإمام المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله عز وجل. ومعنا الآن الحديث قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد ابن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر أي في بيت آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول أمه وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. الله أكبر. نعم سمير تبنير الحديث تبليه.
Chapitre 6, la rétribution des parents. Abu Mura, l'esclave affranchi de Ukay, radiallahu anhu, a dit Abu Hurayra représentait Marwan et il était Azul Hulayfat. Sa mère habitait une maison et lui une autre. Lorsqu'il désirait sortir, il se tenait devant la porte de sa mère et disait que la paix et la miséricorde, non, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi, ô chère et tendre mère. Elle lui répondait, et que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi, ô mon cher fils. Il lui répondait alors, qu'Allah te fasse miséricorde comme tu m'as éduqué lorsque j'étais tout petit. Elle répondait alors, que la miséricorde d'Allah soit sur toi pour ta bonté envers moi maintenant que je suis devenu âgé. Lorsqu'elle s'apprêtait à rentrer, il disait la même chose.
Ahsan, barakallahu fik. Tu peux répéter le début, le tout début?
Abu Mura, l'esclave affranchi de Ukayl.
C'est bon. Mourra, Yani yenshadda sur le ra. On dit murra. Murra. Bon. Yani c'est clair qu'en phonétique, c'est pas visible, mais murra avec nshadda est maula aqil et pas uqayl. Donc ils ont dit uqayl, wallahu alam, moi j'ai aqil. Après peut-être qu'il y a yani, deux versions, wallahu alam. Barakallahu fik. طيب يقول الشيخ رسلان حفظه الله درجة الحديث ضعيف الإسناد فيه سعيد ابن أبي هلال كان اختلط الحديث حديث حسن ومع ذلك يقول حديث حسن سعيد ابن أبي هلال وثقه الجمهور وثقه الجمهور من المحدثين ولم يثبت أنه اختلط قال الشيخ لم يثبت أنه اختلط قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن هذا الحديث ضعيف وجعل مدار ضعفه على سعيد ابن أبي هلال قال كان اختلط طيب donc est-ce que le hadith il est authentique ou pas est-ce qu'il est authentique Il dit le cheikh, sa chaîne de transmission, elle est faible, car il y a à l'intérieur un certain Saïd ibn Abi Hilal. Et il a été dit qu'il faisait de ikhtilat. Qu'est-ce que ça veut dire, ikhwa, quand on dit qu'un rapporteur de hadith, kana yakhtalit. Kana yakhtalit. C'est quoi l'ikhtilat chez les rapporteurs de hadith? Donc forcément, pour ceux qui n'ont jamais étudié la science du hadith, يعني, il ne pouvait pas savoir. طيب. قال العلماء من المحدثين الاختلاط هو كون الراوي ثقة ثقة حافظا ثم يطرأ سوء الحفظ عليه لسبب من الأسباب. طيب. Donc lorsque vous entendez qu'un tel parmi les rapporteurs يختلط يختلط c'est quoi c'est se mélanger طيب se mélanger mais dans la terminologie du hadith c'est quelqu'un qui est digne de confiance à la base c'est un rapporteur qui est fiable dont on prend le hadith mais يطرأ عليه سوء الحفظ لسبب mais à un moment dans sa vie il a été atteint par la perte de mémoire ou une déficience dans sa mémoire ou l'oubli tout simplement à cause d'une cause que ce soit la vieillesse hein, une maladie n'importe quoi il y a une cause qui a fait que au départ il était fiable il avait une bonne mémorisation excellente même qui fait qu'on prenait de lui mais à un moment donné dans sa vie il s'est passé quelque chose et en général c'est la vieillesse et, hein? Non. Donc il se peut que le hadith soit pris d'une personne jusqu'à un certain âge, mais qu'on ne le prendra plus de lui ou d'elle après un certain âge, par rapport à l'histoire et par rapport à ce qu'on sait d'elle. Par exemple, on sait qu'un tel a commencé à perdre la mémoire à l'âge de 70 ans, eh bien on va regarder le hadith, à quel moment il l'a rapporté. S'il l'a rapporté avant les 70 ans, on prendra de lui. Mais s'il l'a rapporté après les 70 ans, on ne prendra plus de lui parce qu'on sait qu'à cet âge-là, il a été atteint par l'ikhtilat. Hein, c'est ça que ça veut dire. Kana yakhtalit. Kana yakhtalit. Donc certains ont dit que Saïd ibn Abi Hilal, il a été atteint par ça. Et parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, il dit na'am, kana yakhtalit, fa al-hadith da'if. Ce hadith-là est da'if. Mais Cheikh Mohamed Saïd Raslan, il dit que ça n'a pas été affirmé. C'est-à-dire pour dire qu'un tel justement a été touché par ça, il faut quand même des preuves claires. Hein? Et il dit que cela n'a pas été affirmé. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Rijal al-Isnad. Rijal al-Isnad al-Awwal Abdullah ibn Salih. Idhan qala al-Imam al-Bukhari haddathana. Bima'na sami'a al-Bukhari min hadha al-shakhs. Ismuhu Abdullah ibn Salih. وهو الجهني مولاهم كاتب الليث ابن سعد. Donc le premier rapporteur du hadith, donc juste après Al-Bukhari, qui a dit donc Abdullah ibn Salih nous a rapporté. Ça veut dire qu'il a entendu de ses propres oreilles ce Abdullah ibn Salih, qui est donc Al-Juhani. Al-Juhani, wa kana katiban lil-Layth ibn Sa'd. Donc Al-Layth ibn Sa'd, il fait partie des plus grands imams de l'islam. Et c'était un musri, c'était un égyptien. Na'am. Et certains disent même que son niveau de ilm, il a dépassé celui de l'imam Malik. Rahimahullah ta'ala. Mais comme il avait peu de disciples, du coup, il avait même un madhhab, comme l'avait l'imam Malik, ou comme l'avait Ahmed, ou Abu Hanifa, ou Shafi'i, mais il n'a pas été propagé. Son madhhab n'a pas été propagé parce qu'il avait moins de disciples qu'eux. Mais malgré ça, certains ont dit que Al-Layth ibn Sa'd avait plus de ilm que l'imam Malik, rahimahullah, et plus de fiqh que l'imam Malik. Al-Muhim, Abdullah ibn Salih, il était celui qui écrivait justement les hadiths de Al-Layth ibn Sa'd. Voilà. Yani c'était un katib. Donc il était payé, etc., pour justement écrire les hadiths. Thumma, حدث قال هذا عبد الله ابن صالح قال حدثني الليث فالليث هو ابن سعد الإمام. Donc ce Abdullah ibn Salih, il a entendu le hadith de la bouche de son cheikh qui est al-Layth ibn Sa'd. Donc l'imam dont on vient de parler. ثم قال الليث حدثني خالد ابن يزيد وهو الجمحي ثقة فقيه. Puis on a Khalid ibn Yazid, qui est quelqu'un également, Al-Jumahi, qui fait partie des rapporteurs fiables. An Sa'id ibn Abi Hilal. Wa Sa'id ibn Abi Hilal, huwa Abu al-Ala al-Misri al-Thiqa. Donc Sa'id ibn Abi Hilal fait partie des rapporteurs de hadith qui sont fiables. C'est important, yani, qu'on évoque les noms de ces rapporteurs, comme ça, on s'habitue, bi'idhnillah, à les entendre et on sait. Si un jour on les entend ou on lit leur nom quelque part, on sait de qui on parle. On sait qu'on parle de rapporteurs de hadith. Ce sont les gens qui nous ont rapporté les hadiths, hein, de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba. Donc on doit les connaître. Naam. Thumma, an Abi Hazim. An Abi Hazim. Abu Hazim, huwa ibn Dinar. هو ابن دينار ثم أبو مرة مولى عقيل أبو مرة نعم وعليكم السلام ورحمة الله وسعيد ابن أبي هلال وثقه الجمهور ولم يثبت أنه اختلط لكن الشيخ رحمه الله ربما بمزيد اطلاع عنده قال كان اختلط. Donc après il a ici dit ce qu'il a dit déjà au début, il a dit certains tels que l'imam Al-Albani رحمه الله تعالى disent que سعيد ابن أبي هلال يعني à un moment de sa vie, il a commencé à perdre, ou sa mémoire a commencé à diminuer, il a commencé à se tromper, à faire des erreurs, et ainsi de suite. Naam. Ma'ani al-kalimat. Ma'ani al-kalimat. Qawluhu, anna Aba Hurayrata radiyallahu anhu kana yastakhlifuhu Marwan. Marwan kana khalifa. Fi hadha az-zaman kana khalifa. واسمه مروان ابن الحكم مروان ابن الحكم فيستخلف من أبا هريرة فيعني يجعله نائبا له يجعله يقوم مقامه إذا خرج للحج مثلا إذا خرج مروان للحج فاستخلف أبا هريرة. طيب donc dans le hadith il dit que Abu Huraira a été délégué par un certain Marwan qui faisait partie donc à cette époque-là ou qui était à cette époque-là le calife Marwan ibn al-Hakam. Marwan ibn al-Hakam. Certains ont dit c'est un sahabi, d'autres ont dit c'est un tabi'i. Et ce Marwan ibn al-Hakam, lorsqu'il partait au pèlerinage, eh bien il déléguait Abu Huraira pour le remplacer lors de son absence. Donc yastakhlifu, c'est-à-dire déléguer quelqu'un pour le khalifa, pour la direction et la gouvernance en son absence. D'ailleurs,
وقوله وكان يكون بذي الحليفة أي كان يكون أبو هريرة بذي الحليفة. وذو الحليفة مكان معروف، مكان معروف قرب المدينة على بعد 6 أميال منه، 6 أميال. فكان في بيت وأمه في بيت آخر. Puis il dit, et Abu Huraira donc se trouvait à ce moment-là, lors de son de sa délégation, de son remplacement, il était à un endroit appelé Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa qui se trouve ici, dit le Cheikh, à 6 000. Donc 1 000, ikhwan, c'est une mesure utilisée à l'époque par les Arabes. Il faut savoir que cela peut représenter soit la chose avec laquelle on se met le kuhl sur les yeux. La chose avec laquelle on se met le kuhl sur les yeux, on l'appelle mil. D'accord ? Ce mil qui ne fait même pas la moitié du doigt, c'est un mil aussi. Taïeb ? Ou alors on a le mil qui est la mesure de distance. Il dit, Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, c'est à peu près kilo wa thuluth. قال شكله وثلث وربما اختلف أهل العلم في ذلك. شيخ العثيمين رحمه الله تعالى يجي سافي أبقي 1 كيلو 300 1 كيلومتر 300. طيب donc 6 vous calculez 6 fois 1,300 ça fait combien à peu près 7-8 طيب 7 et quelques kilomètres entre ذو الحليفة et المدينة ذو الحليفة et المدينة. Et donc il était Abu Huraira, il avait là-bas, il avait une maison dans laquelle il résidait, où il était, et sa mère était dans une autre maison. Donc ils étaient dans 2 maisons différentes. Ça fait que ils se rendaient visite, ou plutôt Abu Huraira rendait visite à sa mère. Yaqul Abu Huraira يا أمتاه يا أمتاه هذا نداء والتاء والألف كلاهما عوض عن ياء المتكلم عوض عن ياء المتكلم أي عوضا أن يقول يا أمي يا أمي الياء المتكلم يقول يا أمتاه. طيب عوضها بالتاء والألف وقد جمعها هنا بين العوضين يعني بين عوض بالتاء وبالالف وان جاز الاقتصار على احدهما جاز الاقتصار على الالف مثلا او على التاء اما التاء فللتفخيم التاء للتفخيم نعم كزيادتها في ابتي مثلا بدلا ان تقول يا ابي تقول يا ابتي تفخيما له تفخيما له نعم فهي للتفخيم يعني يا أمي يا أمتا بمعنى يا أمي يا أبتي بمعنى يا أبي طيب يا أخاه بمعنى يا أخي يا أخاه وفيه تعظيم لأخيك يا أخاه يا أختاه وهكذا يا أمتا منادا مندوب والندبة نوع من النداء للمتفجع عليه أو المتوجع منه نعم طيب donc là le cheikh il rentre un peu dans la rhétorique de la langue arabe. Ya ummata donc ya ummata à la base ya ummi ô ma mère. Donc lorsque tu interpelles quelqu'un, tu peux remplacer le ya de ya ummi, celui qu'on appelle ya el mutakallim, tu peux le remplacer par soit le alif en disant ya umma, ou par le alif et le ta, ya ummata. Et cela va désigner ce qu'on appelle un tafrim, une élévation, pour élever la personne. D'accord ? C'est pour élever la personne, pour lui montrer ton respect profond pour la personne. Donc, au lieu de dire « Ya ummi » qui est « Oh ma mère », Tu dis Ya Ummata, ô ma tendre et chère mère. Ô ma tendre et chère mère. Eh na'am. Ou Ya Abati. Ya Abati. Ou Ya Abata. Ô mon tendre et cher père. Ya Akha. Ô mon cher frère. Ya Akha. Ya Urta, ma chère sœur. Et ainsi de suite. Na'am. ما يؤخذ من الحديث أولا اهتمام الصحابة بتعظيم أمهاتهم والدعاء لهن. Première chose que l'on tire du hadith, l'attention particulière qu'avaient les sahaba رضي الله عنهم dans le respect profond qu'ils avaient envers leur mère et également vis-à-vis de faire des invocations en leur faveur. Donc je répète le hadith pour ceux qui peut-être ne l'ont pas bien entendu. Il dit ici que Abu Huraira a été délégué par Marwan ibn al-Hakam, d'accord, pour le khalifa, pour la direction, à un endroit appelé Dhul Hulaifa. Et sa mère habitait dans une maison autre que la sienne. Donc lorsque il voulait entrer chez elle, lorsqu'il l'a visitée, il restait à la porte de la maison, hein, il n'entrait pas, il restait à la porte de la maison et il disait Assalamu alayki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuhu avant d'entrer. Taïeb. Donc là on voit la permission également de dire Assalamu alayka lorsque la personne est toute seule, lorsque tu passes le salam à une seule personne, tu peux dire assalamu alayka. Comme tu peux dire assalamu alaykum, c'est permis aussi. Taïeb, mais certains ulama ont même dit que c'était mieux de d'accorder yani le kef, d'accorder le kef au nombre de personnes à qui tu passes le salam. Si elle est seule, tu dis assalamu alayka. Si c'est un garçon, si c'est une fille, tu dis assalamu alayki. Si c'est ils sont deux, tu dis assalamu alaykouma. Par exemple, si c'est plusieurs, bien sûr, personnes, tu dis assalamu alaykoum, wa hakada. Taïeb. Naam. Donc là, on voit qu'il est permis de dire juste après également assalamu alayka ya akhi wa rahmatullah wa barakatuh, mathalan. D'accord? Assalamu alayka ya akhi, et puis après tu rajoutes wa rahmatullah wa barakatuh. Comme tu peux dire à la fin aussi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي الكريم مثلا طيب et sa mère de répondre وعليك السلام يا بني. Donc là pareil, يا بني, ici c'est une forme de tasrir, là c'est du tasrir, d'accord, يا بني, au lieu de dire يا ابني, يا ابني, elle a dit يا بني à la place, c'est mon cher fils, mon cher fils, يا بني. Là on voit subhanallah le comportement des salaf, yani les parents envers les enfants envers les parents. Regardez comment ils se parlaient entre eux. Comment ils se parlaient entre eux. Naam. Donc elle lui a répondu wa alayka salam ya bunay wa rahmatullah wa barakatuh. Puis il disait après le salut, il disait rahimakillah kama rabbaytini saghira. Rahimakillah kama rabbaytini saghira. Qu'Allah te fasse rahma comme tu m'as élevé depuis petit. Et sa mère de répondre Rahimakallah kama barartani kabiran. Et qu'Allah te fasse rahma comme tu as été bienveillant envers moi alors que je suis vieille et âgée. Allahu Akbar. Et à la fin du hadith, il dit et quand Faïda arada an yadkhul. Naam. Donc là, Afwan, au début du hadith, c'était quand il voulait sortir. Hein. Quand il voulait sortir, il restait à la porte. Et avant de partir, il disait ça. Et lorsqu'il voulait rentrer, il faisait pareil. Il s'arrêtait devant la porte et il disait Assalamu alayki ya ummata wa rahmatullah barakatuh wa rahimakillahu kama rabbaytini saghira. Naam. Mashallah. C'est bon, ikhwan? Tayyib. الفائدة الثانية الحرص على تربية الأولاد من الصغر وأن ذلك يعود بالنفع والبر والخير على الوالدين في الكبار. Deuxième faïda, que tous ceux ici présents qui ont des enfants doivent se rappeler et doivent mettre en pratique. Il dit, le Cheikh, il faut que les parents fassent très attention et fournissent un effort conséquent dans l'éducation de leurs enfants, depuis tout petit. Car cette éducation-là qu'ils leur ont donnée alors qu'ils étaient enfants, eh bien, ils vont en bénéficier. Ils vont en bénéficier, na'am, lorsque ces enfants-là seront plus grands et adultes. Car, en retour, bi'idhnillah azza wa jal, ces enfants-là seront bienveillants envers eux plus tard. Vont être à leur service, vont leur faire du bien et être bienfaisants envers eux lorsqu'ils seront vieux. Donc si tu veux que tes enfants soient bienfaisants envers toi lorsque tu seras âgé et que tu ne pourras plus te débrouiller tout seul et que tu n'auras plus la force, hein, d'aller faire les courses ou de conduire la voiture, etc., eh bien tu as intérêt à être, à donner à tes enfants une bonne éducation lorsqu'ils sont enfants. وهكذا. Eh non, combien يعني de parents le regrettent aujourd'hui. Combien de parents ont laissé leurs enfants, hein, qui n'arrêtaient pas d'être derrière eux, mais dans des choses qui ne leur étaient pas profitables pour le futur. Il faut que tu aies le bac, il faut que tu ailles à la fac, il faut que tu aies ton DUG, ta licence, et que tu aies un bon travail, mon fils. Mais la religion, ils l'ont mis de côté. Plus tard, la religion. Quand elle sera mariée, elle mettra les hijabs. Quand elle sera mariée, elle fera la prière. Quand il aura un bon travail, il fera la prière. Hein? Et combien parmi ces parents-là, aujourd'hui, ils sont seuls. Ils sont seuls, subhanallah. Yani, avant-hier, j'ai discuté avec une femme. Miskina, elle doit avoir 75 ans. Elle fait ses courses toute seule. Elle fait ses courses toute seule. Le chariot, elle n'a même pas le permis, elle n'a rien du tout. Je lui dis, mais ils sont où tes enfants? Elle me dit, il y en a un, il est en Espagne, et l'autre, il est à New York. Toute seule. Elle me dit, je suis veuve, mon mari, il est mort. Comment ça se fait? Subhanallah. Hein? Donc la cause, je crois, c'est l'éducation. C'est l'éducation. Aïna. الثالثة ثبوت الاستخلاف في حالة غياب الخليفة وما أشبه. Et troisième faïda, le fait qu'il est permis au gouverneur de déléguer quelqu'un à sa place lorsqu'il s'absente ou il doit s'absenter. C'est bon, Yahwa? Non. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان ترك أباه وأمه يبكيان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما وأضحكهما كما أبكيتهما الله أكبر سمير
عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجيب un homme vint chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter serment concernant l'émigration. Cependant, il avait laissé ses parents en pleurs. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: retourne auprès d'eux et tout comme tu les as fait pleurer, fais-les rire.
Ahsant, barakallahu fik. Idhan, hadha al-hadith sahih. Al-hadith sahih. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة. Donc ce hadith ici, alhamdulillah, il est authentique. طيب. Il a été rapporté par donc l'imam al-Bukhari et d'autres que lui, tels que Ahmed, Abu Dawud, al-Nasa'i, ibn Majah. Rijal al-Isnad. Awalan, yaqul l'imam al-Bukhari, haddathana Abu Nu'aym. Abu Nu'aym, dhakarnahu, fi hadithin, wa huwa al-Fadlu ibn Dukayn. Al-Fadlu ibn Dukayn, wa huwa al-Ladhi kana yatashayya'. Kana yatashayya' wa yudallis. Donc vous rappelez, quoi? Le premier rapporteur ici qui est Abu Nu'aym, on a parlé de lui déjà dans les hadiths, dans un des hadiths. Il s'appelle Al-Fadlu Ibn Dukayn. Et on avait dit que c'était un mutashayyi'. Il faisait partie des Shia. Il faisait partie des Shia. Et on a détaillé, on avait dit que des fois, les muhaddithoun prennent les hadiths, même des mubtadi'a, avec des conditions bien précises. Avec des conditions bien précises, on ne revient pas dessus. Il faut savoir que ce Abu Nu'aym, c'était un chi'i, naam. Mais cela ne veut pas dire que son hadith, il est rejeté. La preuve, ce hadith-là et d'autres. Naam. Qala haddathana. Donc il dit, Abu Nu'aym, Soufiane nous a dit. C'est qui Soufiane? Al-Thawri. D'accord? Soufiane al-Thawri. Iza utliqa ismu Soufiane, wa Soufiane al-Thawri. Tayyib. من أتباع التابعين عن عطاء بن سائب. عطاء بن سائب هو أحد الأئمة الثقات. donc c'est l'un des imams dignes, fiables, الحمد لله. عن أبيه. donc عطاء بن سائب il a rapporté de son père qui est سائب. d'accord. سائب qui est ابن مالك وقيل ابن يزيد وهو ثقة. rapporteur fiable. ابن مالك وقيل ابن يزيد. عن عبد الله ابن عمر صحابي جليل معروف عبد الله ابن عم ابن العاص رضي الله عنه. donc il dit معاني الكلمات. معاني الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأضحكهما كما أبكيتهما أي أرضهما كما أسخطتهما أرضهما كما أسخطتهما. donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je répète le hadith, lorsque cet homme là est venu le voir et il voulait prêter allégeance vis-à-vis de l'hijra, par rapport à la hijra, et on voit que la hijra ici c'était pour partir justement fi al-jihad fi sabilillah. طيب. Parce que les ulama, ils ont dit que ce hadith-là s'est déroulé après Fath Mekka. Après Fath Mekka. Donc, il n'y avait plus de hijra. Il y a le Médina. Une fois que Mekka a été reprise par les musulmans, il n'y avait plus de hijra à Al-Médina. Donc, la hijra qui est visée ici, c'est la hijra pour aller faire Al-Jihad avec les musulmans. Voyez. Donc, il voulait prêter allégeance et partir justement avec Al-Muslimin. Mais il a laissé ses deux parents Yabkiyan. Il a laissé ses deux parents Yabkiyan. Yani en pleurs. En pleurs. Et le prophète, donc il a su et il a dit, retourne avec eux et fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Fais-les rire comme tu les as fait pleurer. Allahu Akbar. Yani il lui a interdit de partir. Il lui a interdit de partir dans cette situation-là. Subhanallah. Donc, fais-les rire, c'est-à-dire satisfais-les. Fais en sorte qu'ils soient satisfaits de toi. Comme tu les as mis en colère, yani. Satisfais-les comme tu les as mis en colère et comme tu les as attristés. Retourne vers eux et satisfais-les. Fais qu'ils soient satisfaits de toi. Wal-hijra min al-hajr. Wal-hajru diddul wasl. Thumma ghalaba ala al-khuruj min ardin. إلى أخرى لعبادة الله تعالى وحده فكانت الهجرة الأولى من بلد كفر إلى بلد كفر. الهجرة الأولى من بلد كفر إلى بلد كفر صح؟ نعم. ولكن كانت الهجرة إلى الحبشة، هذه هي الأولى، إلى الحبشة وهم نصارى، لأن فيها ملكا لا يظلم الناس في مملكته، لا يظلم الناس هذا الملك ولو كان نصرانيا لا يظلم الناس. فهاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين واجهوا الأذى من كفار قريش والأحزاب المتحزبة معهم، فسميت هجرة. دونك الهجرة il vient du terme الهجر. الهجر c'est le contraire de الوصل. الوصل le lien. الهجر c'est la rupture. La rupture du lien. D'accord ? Na'am. Mais après, dans le langage familier, eh bien, c'est devenu un mot désignant le fait de sortir, de quitter une terre vers une autre. De quitter une terre vers une autre, bien sûr, avec l'intention d'adorer Allah tabarak wa ta'ala. Li'ibadatillahi wahda. Et il faut savoir que la première hijra, ikhwa, la toute première hijra faite par les musulmans, eh bien, elle a été faite d'un pays de kufr vers un pays de kufr. Elle a été faite d'un pays de kufr vers un pays de kufr. C'est-à-dire, elle a été faite de Mecca vers l'Abyssinie, Al-Habasha, l'Abyssinie. Naam. Alors que, yani, c'était des Nasara. Des Nasara, ce n'était pas des musulmans. Donc ils ont immigré vers un pays de Kufr. Ils sont allés là-bas parce que ils savaient qu'il y avait un roi là-bas. Il y avait un roi qui n'était pas injuste envers qui que ce soit. D'accord ? Il n'était pas injuste envers qui que ce soit dans son royaume. Et donc, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a permis à certains compagnons d'émigrer là-bas lorsqu'ils ont été victimes d'injustice et de préjudice de la part des kuffars, de Quraysh et des différentes tribus qui étaient avec eux. Et cela donc a été appelé hijra. Taïeb? Naam. Wal hijratu aydan bima'naha al-shar'i alladhi yatabadaru ila al-dhihni idha dhukirat hiya al-intiqalu min balad al-kufri إلى بلد الإسلام. هذه هي الهجرة في الشرع، الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. مثلا الانتقال من فرنسا إلى الجزائر مثلا، هذا تسمى هجرة إذا ابتغى بذلك المرء وجه الله جل وعلا. نعم. ولما كانت مكة بلد الكفر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا إلى المدينة، فكان من أراد أن يهاجر من مكة أو من غيرها هاجر إلى المدينة في هذا الزمن، ليلحق برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم فيتعلم أحكام الإسلام ويعمل بها، يجاهد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي حكمها لم تنقطع الهجرة التي هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، بقي حكمها غير منسوخ وإنما يجب العمل به. Donc الهجرة dans son sens religieux شرعي, celui que auquel on pense dès qu'on entend le terme Al-Hijra, on pense à quoi? On pense au fait de quitter une terre de kufr pour aller vers une terre d'islam. D'accord? Et donc, lorsque Mecca était encore une terre de kufr, lorsqu'elle était encore une terre de kufr, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné à ses compagnons, radiallahu anhum, d'émigrer vers Al-Médina. D'émigrer vers Al-Médina. Donc tous ceux qui voulaient quitter Mecca ou tous ceux qui voulaient quitter leur terre de Kufr, que ce soit Mecca ou autre,
Eh bien, à cette époque-là, ils allaient tous à Al-Médina. Ils allaient tous à Al-Médina. Afin de, justement, de rencontrer et d'être avec le messager de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, d'apprendre les règles de l'islam, de mettre en pratique l'islam et de lutter dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le jugement et le statut de Al-Hijra demeure jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, le jugement et le statut de Al-Hijra, et on verra que Al-Hijra, ça peut être obligatoire, mais ça peut être aussi mustahab, recommandé et non obligatoire. Ça y est ? Eh bien, ce jugement-là demeure jusqu'à aujourd'hui. Demeure jusqu'à aujourd'hui. Naam. Et n'a pas été abrogé. Parce que certains pourraient dire, non, mais depuis que Mecca est une terre d'islam, il n'y a plus d'hijra. L'hijra, yani, demeure jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire le fait de quitter une terre de kufr vers une terre d'islam. On demande à Allah qu'il nous facilite l'hijra. Naam. وقد ذم الله تبارك وتعالى المسلم الذي يبقى في ديار الكفر ولم يهاجر وهو قادر على الهجرة ذم الله عليهم في قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا إنا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فهناك فلم يستثني القرآن الكريم من الإثم إلا المستضعفين إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان وإلا فالحكم باق ولو كان البلد مسقط رأسه ولو كان البلد مسقط رأسك أي أنت ولدت في هذا البلد فإن كان هذا البلد بلد كفر فيجب عليك أو يستحب لك أن تهاجر ولو كان البلد مسقط رأسه ومقر آبائه وأجداده وأصوله سبحان الله ولكن الله أكرمه بالإسلام وجب عليه أن يفارق الكفار على ديار الإسلام ليعبد الله بدين الإسلام آمنا مطمئنا ويحاكم إلى شريعة الإسلام وبخلاف ديار الكفر فإن الذي يحاكم في محاكمها يحاكم إلى الطاغوت وهذا فيما يتعلق بالهجرة طيب Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a réprimandé très fortement le muslim qui reste sur une terre de kufr et qui ne fait pas la hijra alors qu'il a les capacités de la faire. Dans le sens rapproché, il a dit dans la surat An-Nisa, verset 97-99, certes, ceux dont les anges ont pris leurs âmes alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes. Les anges, ils ont dit à ces personnes-là, « Fima kuntum, où étiez-vous ? » Yani, pourquoi n'avez-vous pas émigré ? Pourquoi n'êtes-vous pas parti vers une terre d'islam ? Ils ont dit, « On était dans l'incapacité. » On était dans l'incapacité de le faire. Mais cela n'était qu'une excuse et une parole. Car ce n'était pas le cas. Ils pouvaient partir. Ils pouvaient partir
Mais ils ont cherché un prétexte en disant ça. C'est pour ça que ils ont répondu quoi, les anges? Alam takun ardullahi wasi'atan. La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste afin que vous y émigriez? Donc cette parole-là des anges prouve que leur excuse n'était pas valable. C'était pas vrai. Taïeb. Puis il dit فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Et leur destination, c'est l'enfer. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et quelle mauvaise destination. Donc la menace de Jahannam nous montre quoi? Un quoi? Que c'est une obligation, mais c'est-à-dire plus que ça. Non, mais Hassan, que le fait de délaisser la hijra alors que tu es capable, alors que la hijra elle est obligatoire pour toi, eh bien cela fait partie des kaba'ir, des péchés majeurs. Car tout péché pour lesquels Allah tabarak wa ta'ala il a cité la menace de l'enfer, la menace de la colère d'Allah, la menace de la malédiction d'Allah, la menace du désaveu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça nous montre que ce péché-là en question est un péché kabira. Et donc c'est un kabira. Excepté, donc Allah jalla wa ala, il a accepté bien sûr les vrais mustad'afin, ceux qui sont vraiment incapables. Et chacun il se connaît, chacun il sait s'il est capable ou pas. Hein? Parmi les hommes, les femmes et les enfants qui ne trouvent aucune solution, taïeb, qui sont incapables de faire al-hijra. Cela est dit, Allah, asallahu an yafuwa anhum. Donc il faut savoir que asallah, asa à la base, asa litaraji. D'accord, c'est pour exprimer l'espoir, l'espérance de quelque chose. Asa, asa ka bi khayr. J'espère que tu vas bien. Asa ka bi khayr. Taïeb. Mais ici, dans ce verset-là, ce n'est pas l'espoir, ikhwan. Lorsqu'il dit « عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ هَذَا وَاجِبْ » Allah, Jalla wa Ala, leur pardonne cela ou ne va pas les réprimander par rapport à ça. Car ils ont une excuse valable qui est l'incapacité. Donc pourquoi tu veux qu'Allah, Jalla wa Ala, te châtie pour ça? C'est impossible. Allah, il n'est pas injuste. Allah, il n'est pas injuste. Donc « عَسَى بِمَعْنَا وَاجِبْ » Allah, c'est-à-dire Allah Jalla wa'ala va leur pardonner à ces gens-là, ou leur pardonne, ou ne va pas les réprimander pour le fait qu'ils ne soient pas partis, car ils ne pouvaient pas partir dans tous les cas. D'accord? Donc c'est, dans le sens ici, c'est asallah, c'est-à-dire min bab itma', al-itma'. Hein? Na, itma'. C'est-à-dire qu'Allah Jalla wa'ala, en disant ça, il donne envie à la personne, yani il fait espérer la personne en disant, mais si vous n'êtes pas capable, Allah vous en tiendra pas rigueur. D'accord? Mais bel, comme on dit, al-itma'. Voyez? Al-muhim, wa kana Allahu afuwan ghafura. Donc, deux parmi les noms d'Allah tabarak wa ta'ala, al-afu wa al-ghafur. Donc, dans le Coran al-Karim, Allah jalla wa ala a cité parmi les exceptions les hommes, les femmes, les enfants qui ne peuvent pas faire al-hijra. Mais sinon, le jugement de l'hijra, qui est soit, on a dit, al-wujub, soit al-istihbab, la recommandation, ça y est, il peut prendre même d'autres jugements selon les cas et selon les personnes, na'am, demeure jusqu'à aujourd'hui et restera en vigueur. Même si le pays dans lequel tu es est ton pays de naissance, même si tu es né dans ce pays-là. Même si tu as pointé le bout de ton nez dans ce pays-là. Si c'est un pays de kouf, al-hijra sera soit obligatoire, soit recommandé pour toi. Voyez? Même si ce pays-là est le pays dans lequel tes parents ont grandi, tes grands-parents ont vécu pendant des siècles et des siècles. Tant que c'est un pays de kouf, le jugement et le statut demeurent. Donc tant que Allah tabarak wa ta'ala, il t'a guidé à l'islam, il t'a fait don de l'islam, il dit le shaykh, tu dois te séparer des koufars pour aller vers une terre d'islam afin d'adorer Allah tabarak wa ta'ala en sécurité et avec apaisement et sérénité et afin de faire appliquer le jugement dans toutes tes affaires et dans ta vie entière en fonction de la charia, en fonction de la charia islamia. Car cela n'est pas possible dans les pays de kufr. Naam, car il dit le shir, car celui qui va chercher un jugement qui s'oppose au jugement d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien il aura cherché un jugement chez le tawout. Chez le tawout. Donc cela concerne donc le sujet dont on parle ici qui est Al-Hijra. وأما الحديث فموضوعه وجوب بر الوالدين وجوب بر الوالدين فهو من الواجبات العينية التي تتعلق بكل واحد من الأبناء ذكورا أو إناثا وغاية ذاك قصة الرجل هذا الذي جاء ذكره في هذا الحديث بأنه جاء يبايع على الهجرة ولكن ترك أبويه وهما بحاجته وهما بحاجته يبكيان فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم بل أمره أن يعود إلى أبويه ليبرهما وليدخل عليهما السرور حتى يضحكهما كما أبكاهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وذلك دليل على عظم حق الوالدين. Donc quant au hadith, ici le hadith dont on parle, son sujet principal c'est quoi? C'est la bienveillance, la bienfaisance envers les deux parents. Naam. Il dit le shaykh, et en fait ça a été pris du sharh de Sheikh Zayd al-Madkhali hafidhahullah ta'ala. Cette obligation-là, c'est une obligation que l'on dit « عيني ». « هذا واجب عيني » ou « تقول هذا فرض عين » وهناك فرض عين وهناك فرض كفاية. ما هو الفرق بينهما؟ C'est quoi la différence entre les deux, entre l'obligation individuelle et l'obligation kifaya. C'est quoi? Ouais. Non, après.
Par exemple, la dame, quelqu'un doit le faire et ça va pour tout le monde.
Là, tu parles de quelle.
La dame. D'une obligation.
El wajib? Ma sa mère, j'ai pas entendu, après. نعم إذن الأذان فرض عين أو كفاية؟
c'est
un exemple et pas la définition. كفاية كفاية طيب نعم حسنا صلاة جنازة غسل الميت ودفنه وهكذا طيب إذن الفرض الكفائي الفرض الكفائي هو ما طلب الشارع وهو الله تبارك وتعالى فعله من مجموع المكلفين من مجموع المكلفين ولم يطلبه من كل واحد منهم فإن قام العدد الذي يكفي سقط عن الباقي وإلا أثموا جميعا وإلا أثموا جميعا. Donc le fardu al-kifa'i, donc on peut dire al-fardu al-kifa'i, on dit al-wajibu al-kifa'i, on dit fardu kifaya, on dit wajibu kifaya, wa hakadha. C'est tout ce que le shari', donc le législateur qui est Allah tabarak wa ta'ala, ordonne à un groupe parmi al-mukallafin. Al-mukallaf, ce sont les musulmans responsables. Responsables, musulmans, doués de raison, pubères, il y en a responsables. Dans la, législation islamique. D'ailleurs. Mais un groupe seulement. Il ne l'a pas ordonné à tous les individus de la communauté, mais seulement à un groupe. Donc lorsque un groupe s'en charge, cela décharge les autres. Lorsqu'un groupe s'en charge, cela décharge les autres. Exemple, le frère il a dit l'adhan. L'adhan, donc du moment où une personne s'en charge, ça décharge les autres. Laver un mort, prier sur le mort, enterrer le mort, hein, et autres, cela fait partie des furud kifaya. Mais si personne ne le fait, si personne ne le fait, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est dans le péché. Si par exemple on laisse un mort, on le laisse, on ne le lave pas, on ne l'enterre pas, on ne fait rien du tout, on est tous dans le péché, tous dans le péché. لأن هذا من الفروض الكفائية. Et pareil pour l'adhan. والفرض العيني. الفرض العيني. وقت الأذان. أذان.
الله أكبر الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
نعم. إذن عرفنا ما هو الفرض أو الفرض الكفائي. الآن الفرض العيني. الفرض العيني هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد المكلفين طلبا جازما. طلبا جازما كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام إلى آخر. Alors que الفرض العيني أو فرض عين c'est ce que Allah تبارك وتعالى a ordonné de faire à chaque individu parmi les مكلفين. Parmi les مكلفين. D'accord ? Les musulmans responsables religieusement d'un ordre catégorique. C'est un wajib. Tel que as-salat, salawatul khams, les cinq prières. Tel que le pèlerinage, pour celui qui a les moyens, bien sûr. Tel que le jeûne, tel que la zakat, tel que les liens de parenté, bien y garder les liens de parenté, et bien sûr, la bienfaisance envers les parents. Donc la bienfaisance envers les parents, ikhwa, min al-furud al-ayniyya. La bienveillance envers les parents est une obligation individuelle. Individuelle. C'est pour ça qu'il dit ici فَهُوَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْعَيْنِيَّ. La bienfaisance envers les parents fait partie des obligations individuelles. Donc qui est obligatoire sur tous les enfants. Surtout ceux qui ont encore des parents. Que ce soit des garçons ou des filles. Et ce hadith-là nous montre combien cette obligation-là, elle est énorme. Elle est énorme. Lorsque cet homme-là est venu donc pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il voulait partir. Fil jihad, al-shar'i. Mais il a laissé ses deux parents en pleurs. Il a laissé sa mère, son père derrière lui, en pleurs. Et le prophète, ça, il n'a pas accepté. Il ne l'a pas accepté. Alors que là, on parle de l'hijra. On parle de l'jihad ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ou ma'a ashabihi. On ne parle pas de n'importe quel ibad. On parle d'une des plus grandes adorations dans l'islam. Et bien, malgré ça, il a refusé. Il a refusé qu'il parte. Au contraire, il lui a ordonné de retourner auprès d'eux afin de les rendre heureux. Car quand il est parti, il les a rendus malheureux. Hein? Si cela est allé jusqu'à faire pleurer des personnes âgées, des parents, c'est que vraiment ils sont malheureux. C'est que vraiment ils sont malheureux de ton départ. Donc il lui a dit, retourne les voir et va les rendre heureux. Va les rendre joyeux, va les faire rire comme tu les as fait pleurer.
Par rapport à la bienfaisance des parents, j'entends mon frère donner la citation que Matoudine Koudan. Et souvent ils attribuent ça à la parole du prophète Al-Sallallahu
alayhi wa sallam.
C'est quantique ou pas?
كما تنتودن هذه قاعدة عامة une règle générale نعم comme tu as fait on te fera. Donc il se peut qu'Allah tabarak wa ta'ala, si tu as été malveillant envers tes parents quand tu étais enfant, eh bien il peut faire en sorte que tes propres enfants plus tard soient malveillants envers toi. Bien sûr que c'est possible. Hein, كما تنتودن الله أعلم. Ah, tu voulais savoir si c'était un hadith?
Ils attribuent ça dans le sens où
c'est une parole du prophète. Allah, je ne sais pas si c'est un hadith, akhi. Allah alam. J'ai un doute, je ne sais pas si c'est un hadith. Donc c'est une parole qu'on dit entre nous, yani comme ça, mais de là à dire que c'est un hadith, il faut vérifier, inshallah. Au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, il faut la preuve. Hein.
Et si quelqu'un fait un hijra et que les parents, ils pleurent.
Que les parents, ils. أخي بر الوالدين من أفضل الأعمال من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات ها بل هو يقدم على الهجرة نعم بر الوالدين يقدم على الهجرة ويقدم على الجهاد في سبيل الله الشرعي ولكن مع ذلك لا يطاع والد ولا تطاع والدة في معصية الله فلا يجوز أن يتقرب أحد بفعل المعصية لرضا شخص سواء الوالدين أو غيرهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاعة في المعروف هذا حديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أي نعم فالله جل وعلا أيا كان هذا المخلوق الله جل وعلا أحق أن يطاع كما أجي الشيخ زيد المدخلي حفظه الله ورحمه par rapport à ta question justement il dit que la bienfaisance envers les parents fait partie des plus grandes adorations de l'islam des plus grandes choses qui te rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala si tu veux te rapprocher d'Allah jalla wa ala sois bienfaisant envers ta mère sois bienfaisant envers ton père tu as commis des péchés très graves si tu veux qu'Allah jalla wa ala te pardonne et te rapproche de lui hein comme l'a dit Ibn Abbas à celui qui avait tué une femme il avait tué une femme il lui a dit hayya walidatuk hayya walidatuk est-ce que ta mère est encore vivante puis il a dit inni la a'lamu amalan aqraba min Allah azza wa jal min birr al-walida il dit je ne connais rien qui rapproche plus d'Allah tabarak wa ta'ala que la bienfaisance envers la mère Donc il n'y a pas de doute hein, qu'on doit être bienfaisant envers les deux parents. Les ulama ils disent même que cela doit être prioritaire à la hijra. Que cela doit être prioritaire au djihad, au shari'i, légiféré dans un pays musulman. D'ailleurs, mais malgré ça, tu ne dois pas obéir ni à ton père, ni à ta mère dans la désobéissance à Allah. Tabarak wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si pour toi la hijra elle est obligatoire. Elle est obligatoire, d'accord? D'un côté tu as la hijra qui est wajiba pour toi. Elle est wajiba. Parce que tu ne peux pas appliquer ta religion correctement dans ce pays-là. Donc elle n'est pas mustahabba, elle est obligatoire, elle est wajiba. Et wallahu alam, en France elle est wajiba pour nous, hein? Elle est wajiba. Et ici, on n'applique pas avec sérénité les rites de l'islam comme il faudrait. Tayeb. D'accord. Donc, tu as la hijra qui est wajiba. Et puis, tu as tes parents qui te disent, non, tu ne veux pas la hijra. Tu restes avec nous. Et quand tu lui dis pourquoi, ils te disent parce que la France, c'est mieux que le bled. Qu'est-ce que tu fais? Tu obéis? Yassine, tu obéis? Tu obéis pas. Tu obéis pas. Parce que là, tu vas leur obéir dans le péché. Là, tu vas leur obéir dans le ma'asiyah. Ça? Eh, na'am. Donc, il n'est pas permis de se rapprocher d'Allah tabarak wa ta'ala en faisant un péché. Quelle que soit la créature. Même si c'est ton père ou ta mère. Quelle que soit la créature. C'est pour ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'obéissance n'est faite que dans le ma'rouf. Que dans les choses convenables, correctes, permises. Il a dit également, pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur, quelle que soit la créature, quelle que soit la créature, même si c'est ta mère, même si c'est ton père, Allah Jalla wa Ala est plus à même d'être obéi que. D'ailleurs, maintenant, s'il y a une excuse valable, tes parents sont malades. Ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls. Tu te dis, mon fils, voilà, si tu pars, je ne peux rien faire. Là, non. Là, tu restes avec eux. Parce qu'ils ont besoin de toi. C'est un vrai besoin. Ils sont dépendants de toi. Là, ce n'est pas pareil. T'as vu? Donc après, c'est au cas par cas, je crois. C'est au cas par cas. Chacun, Annie, par rapport à ce sujet-là, il faut qu'il ait une fatwa spécifique et propre à lui. À son cas personnel. C'est pas, on ne peut pas généraliser ça pour tout le monde. Il y en a qui ont des parents, il y en a qui ont besoin de lui, il y en a qui ont des parents qui n'ont pas besoin de lui, il y en a qui ont des parents qui ont d'autres enfants, ils n'ont pas que toi.
Certains ont des parents musulmans, d'autres non. Donc le jugement va différer également. Ça va dépendre. Taïeb. Wa hakadha wallahu ta'ala a'lam. Trouvez le hadith ou pas? Hadith daif? Comme tu as dit tout d'un? Non. Mais le ma'na sahih. Le ma'na sahih. Le jaza min jins l'amal. Donc le hadith, il a dit le frère, il est faible. Comme tu as fait, on te fera, il est faible. Mais le sens, il est correct. Hein? Le sens, il est bon. Comme tu as fait, Allah tabarak wa ta'ala peut te faire vivre la même chose, yani pour te punir. والله تعالى أعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما بارك الله فيك.